Radio Cassis, grand témoin.
Ancienne directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, ancienne administratrice déléguée générale de l'Institut national de sécurité sociale, aujourd'hui députée nationale, Marie-Thérèse Guérembo-Iazalo, est celle que grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Marie-Thérèse Guérembo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne, de votre parcours professionnel et votre parcours politique. Nous clôturons avec vous le mois de la femme. Nous sommes le 31 mars 2013. Nous évoquerons aussi dans cet entretien certains sujets liés à la femme congolaise, notamment les violences sexuelles et le rôle que la femme congolaise peut jouer dans la consolidation de la paix en RDC. Mais avant cela, commençons par une petite biographie de votre personne. Vous êtes née à Fataki le 27 août 1951.
Oui, madame la journaliste. Fataki, dans la province orientale, dans les districts de l'Ituri.
Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé toute votre enfance?
Pas toute mon enfance, non. Donc, j'ai fini à Fataki. J'ai commencé mes études primaires à Nyakasanza, à Bunia. Et puis, après l'indépendance, nous sommes venus dans le Bazouélé, à Bouta, à Bambisa, Kitoulé précisément.
Vous avez plus grandi dans la province orientale?
Si vous voulez.
Alors, les parents ont travaillé dans la province orientale?
Oui, mes parents travaillaient dans la province orientale. Mon papa est né dans la province orientale, à Likati précisément. Ses parents travaillaient dans l'ancienne société des chemins de fer, ici Congo.
Je dirais que vous êtes plus lié à la province orientale qu'à votre province d'origine, l'Équateur.
Pas tout à fait. Je suis très attachée à ma province Équateur parce que de temps en temps, nos parents se faisaient l'obligation de nous envoyer en congé chez nos grands-parents.
Vous avez grandi dans quelles conditions?
Bon, mes études primaires se sont passées sans problème, mais c'est après l'indépendance, avec les premières guerres à Bunia et puis la première rébellion en 1963-64. Là, j'ai connu des problèmes, puisque au cours de ces rébellions, j'ai perdu mon papa.
Et vous avez eu des difficultés pour continuer les études?
Bon,
pour payer les minervales?
Des difficultés, non. Puisqu'à l'époque, la société congolaise était très solidaire. J'ai pu étudier grâce aux amis de mon papa. Tu vois que j'étais quand même une fille intelligente. En tout cas, ils m'ont facilité beaucoup de choses pour que je puisse poursuivre mes études.
Et vous avez fait quel genre d'études à l'école secondaire?
À l'école secondaire, à l'époque, il y avait plus les humanités pédagogiques. J'ai fait les humanités pédagogiques. J'ai commencé en Bumba, en section scientifique, au collège Saint-André. Et puis, je suis allée poursuivre à Kimpese, à l'Institut Maria Goretti. Et là, je fais les humanités pédagogiques.
Mais pourquoi vous avez changé? Vous avez commencé en scientifique et puis vous êtes allée en pédagogie?
Bon, je devrais aller à Kimpese, mais à Kimpese, il n'y avait pas d'humanité scientifique à cette époque-là. C'était en 1966.
Kimpese dans le Bas-Congo?
Oui, dans le Bas-Congo.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance, pendant que vous grandissiez? Qu'est-ce que vous a le plus marqué comme souvenir?
Bon,
je sais qu'il y a beaucoup de souvenirs que vous avez en tête, mais celui qui vous a le plus marqué?
Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est mon appartenance au mouvement des jeunesses exagérées. Et je crois que ça m'a formé vraiment à l'autodiscipline et à l'excellence, donc la recherche du parfait dans ce que je fais.
Vous avez dit c'est un mouvement des jeunes qu'on retrouve dans l'église catholique.
Ok.
Vous êtes détentrice d'une licence en sciences et l'éducation de l'université de Kisangani.
Exactement, madame.
Et donc après vos humanités en pédagogie, vous êtes allée à Kisangani pour faire l'université?
Non, non. Je suis allée à l'université Lopanium à l'époque.
L'université de Kinshasa aujourd'hui.
Oui, l'université de Kinshasa aujourd'hui. Et nous avons fait je fais les deux années de candidature. Et je crois que ça doit être au mois de juin. Il y a eu des problèmes sur le campus. Donc, les étudiants, avec le gouvernement, ils se posaient des problèmes. Et le président de la République à l'époque, le maréchal Mobutu, a pris la décision d'enrôler les étudiants dans l'armée.
Vous avez fait aussi l'armée?
Oui, j'ai fait aussi l'armée. Parce que j'étais étudiante, j'ai fait l'armée pendant 2 ans.
C'était obligatoire pour tous les étudiants?
C'était obligatoire pour tous les étudiants de l'université Lovagnon. Les étudiants et les étudiantes.
Et c'était quel genre d'exercice qu'on vous faisait faire? les mêmes exercices que les hommes. Il n'y avait pas de distinction.
Non, non, c'était une formation militaire. Au vrai sens du mot, nous avons participé à toutes sortes de formations, sauf les maniements d'armes. Ben, nous n'avions pas accès aux maniements d'armes. On a fait les combats sans armes, les pistes d'obstacles, les pistes aériennes, les rayons, etc. Et nous, on portait les socotos avec des bottes, comme tous les militaires.
Il y avait des sanctions pour les étudiants qui proposaient à cette formation?
Non, c'était difficile, à moins de fuir. Tous les étudiants sont passés par les services militaires.
Qu'est-ce que vous avez appris lorsque vous êtes parti dans ce service militaire? Bon. Est-ce que ça a ajouté quelque chose dans votre vie?
Bon, au début, c'était difficile. Vous voyez, nous venons du campus universitaire et nous découvrons le camp militaire. Ce n'était pas facile.
Vous étiez logé dans le camp?
Nous étions logés dans les camps comme tous les militaires. Ce n'était pas facile. Et puis, les exercices militaires, on avait l'impression qu'on nous abrutissait, quoi. Mais avec l'État, et aujourd'hui, avec l'État, je le dis quelque part, c'était nécessaire, puisque l'armée, c'est vraiment l'école de la vie. C'est là où on apprend d'abord à se discipliner et puis à respecter la loi. Parce que dans l'armée, quand vous ne respectez pas les règles, vous êtes automatiquement sanctionné. Et tout ça, ça nous a préparé à la vie.
Après 2 ans de service militaire, vous avez réintégré la vie civile?
La vie civile, on nous a démobilisés et nous avons réintégré la vie civile.
C'est comme ça que vous êtes allé à Kisangani pour continuer les études?
Non, non. Il s'est passé. Ça, c'est l'histoire de notre pays. Donc, pendant que nous étions dans l'armée, le gouvernement avait convoqué une conférence sur l'enseignement supérieur et il a pris la décision de créer l'Université nationale du Zaïre, UNAZA. Donc, de fusionner les 3 universités qui existaient à l'époque à une seule université, mais avec des campus éparpillés là où existaient les autres universités. Et c'est ainsi que notre faculté, qui était devenue la faculté de sciences de l'éducation, est allée à Kisangani. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Kisangani pour les 2 années de licence. Parce qu'à l'époque, c'était 2 ans de candidature et 2 ans de licence. C'est après la création de l'UNAZA qu'on est arrivé à un régime de 5 ans. Donc, 3 ans de candidature et 3 ans de graduat et 2 ans de licence.
Alors, les 2 ans de candidature avant la création de l'UNAZA, c'est ça qu'on appelle graduat aujourd'hui?
Oui, c'est ça qu'on appelle graduat aujourd'hui, mais ajouter 1 année.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, honorable Marie-Thérèse Guérimbourg?
Bon, ce que je n'aime pas dans la vie, ce sont les intrigues. Je n'aime pas ça.
Vous soyez plus explicite.
Les intrigues, je crois que beaucoup de gens comprennent ce que je vais dire par là.
Et pour ceux qui ne comprennent pas?
Non. Non, je crois que tout le monde a compris.
Alors, quel est votre plat préféré?
Mon plat préféré, c'est l'engoukassa.
C'est un plat de l'Équateur?
Oui, c'est un plat de chez nous. Mm-hmm. Qu'on prépare avec les bilolo, on peut préparer ça avec les makemba ou les ignames, et puis on met un peu d'arachide. C'est une sorte de soupe, quoi, que nous prenons chez nous. C'est mon plat préféré.
Marie est mère de combien d'enfants?
Je suis mère de 6 enfants.
Ils sont avec vous à Kinshasa?
Bon, ce sont des adultes, hein. 3 sont à l'extérieur, et puis les 3 autres vivent ici.
Le grand témoin.
Voilà, je rappelle à tous les auditeurs des Radio Capi qui viennent de nous rejoindre que grand témoin reçoit Marie-Thérèse Guérimbourg. Elle est ancienne directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, ancienne administratrice déléguée générale de l'Institut national de sécurité sociale et INSS. Aujourd'hui, elle est députée nationale. Parlons de votre parcours professionnel et politique, honorable Marie-Thérèse Guérimbourg. Après vos études, quel était le premier travail que vous avez exercé?
Bon, après mes études, le premier travail que j'ai exercé, c'est le travail de professeur de pédagogie et de psychologie à l'Institut de Kimwenza.
À Kinshasa?
À Kinshasa, oui.
Après avoir obtenu votre diplôme, vous êtes venu à Kinshasa?
je suis rentrée à Kinshasa et j'ai commencé à travailler chez les Sœurs du Sacré-Cœur, à Kimoyoza comme professeur de pédagogie et de psychologie et de méthodologie aussi.
Et de là, vous êtes partie à l'UPEN?
De là, je suis passée à l'UPEN, où j'ai commencé comme assistante au centre de recherche en pédagogie appliquée.
Puis chef de travaux?
Puis chef de travaux. Bon, en recherche, on dit attaché de recherche.
Pourquoi vous n'êtes pas allé plus loin pour en devenir professeur, par exemple? Vous n'aviez pas le temps?
Non, je voulais bien, mais il y avait la responsabilité de la famille, de mes enfants. Il fallait que je travaille dans plusieurs endroits pour pouvoir les élever comme ils s'élevaient.
Et comment vous vous retrouvez en politique, finalement?
Bon, en politique, je me suis retrouvée comme ça.
Par hasard?
Oui, si vous voulez.
Vous étiez dedans déjà et vous vous êtes rendu compte que vous avez commencé à faire la politique?
Bon, je me suis mariée à un monsieur qui était un grand politique. Donc, sur le campus, déjà, il était parmi les étudiants révolutionnaires. Et je crois que, en vivant avec un politicien, j'ai appris à devenir politique.
Donc, c'est par votre mari que vous êtes devenue une femme politique?
Que je me suis familiarisée à la politique.
Vous vous êtes familiarisée avant de vous investir vous-même dedans?
Oui. Et je me suis retrouvée là-dedans, par hasard.
Et comme ça, vous avez travaillé dans plusieurs cabinets ministériels?
Oui, j'ai travaillé. J'ai commencé d'abord au cabinet du Premier ministre. Ensuite, j'ai travaillé...
Vous parlez du Premier ministre
Le Premier ministre Kengo à Dondo, oui. Dans Kengo, ce qu'on appelle, c'est qu'il a assumé plusieurs mandats, Kengo 1, Kengo 2, Kengo 3.
Kengo 3, oui.
Et moi, j'ai travaillé avec lui dans son mandat Kengo 3.
Et après?
Bon, après, je me suis retrouvée comme conseillère administrative au cabinet du ministère de Culture et des Arts avec Madame Martin Gamulawa Fwana. J'assumais les fonctions de conseillère administrative. Et puis, nous nous sommes retrouvés avec elle au ministère du Commerce extérieur, Industrie, PMI et PEN. Et là, j'étais chargée de propriété industrielle.
Mais pour une femme, quand vous travaillez dans les cabinets ministériels, comme ça, vous n'avez pas le temps pour votre famille. Comment vous faisiez alors?
Non, je suis allée, j'ai commencé à travailler dans les cabinets au moment où mes enfants étaient déjà à l'école secondaire. Et les trois aînés, ils avaient terminé, ils étaient à l'université. Donc, ils pouvaient s'occuper des autres pendant mon absence.
Mais ils ont toujours besoin de la présence de maman?
Oui, mais les travaux des cabinets, on ne dort pas toujours au cabinet, on rentre à la maison.
On rentre peut-être fatigué, on n'a pas le temps de s'occuper des enfants, de voir les devoirs, voir comment ça évolue à l'école.
Oui, mais quand je commençais à travailler dans les cabinets, mes enfants étaient tous à l'école secondaire et les trois aînés à l'université.
Ça ne dérangeait pas votre mari?
Non, ça ne dérangeait pas mon mari.
Parce que lui-même était dans le monde politique, il comprenait.
Non, lui n'était pas dans les mots. Il n'a pas continué avec la politique comme telle. Il tenait des discussions, etc. Et puis après, il est tombé malade.
Marie-Thérèse Grimbaud, vous avez travaillé comme directeur ou directrice de cabinet adjointe du chef de l'État. Comment vous êtes arrivée jusque-là? C'est quand même une haute fonction, là, que vous avez assumée.
Là, pour moi, je ne saurais pas vous donner des explications. J'en profite d'ailleurs pour présenter mes très sincères remerciements au président de la République, puisque c'était la première fois que cette nomination est intervenue le 7 mars, la veille du 8 mars 2005. C'était un message fort adressé à la femme congolaise et Dieu a voulu que le président de la République honore la femme congolaise à travers ma modeste personne. Jusqu'aujourd'hui, quand j'y pense, je suis toujours émue.
Comment il vous a remarqué? Il y a plein de femmes qui font la politique, qui sont dans la politique. Pourquoi le choix sur vous?
Bon, je ne saurais pas vous le dire. Parce que quand on m'a nommée, je n'étais pas dans la politique active. Bon, je venais de travailler dans les différents cabinets. Et puis, j'ai intégré mes fonctions à l'IPEN comme chef de travaux attaché à la recherche. Et c'est alors que ma nomination est intervenue. Je ne saurais jamais le dire, qu'est-ce qu'il y a eu, quelles sont les personnes qui m'ont présenté, ça je ne saurais jamais.
Vous étiez à la maison lorsque le communiqué est passé à la télévision, ou bien vous saviez déjà que vous alliez être nommé dans le cabinet du chef de l'État? On parle de Joseph Kabila, de l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila.
Non, je ne le savais pas. Dans ces choses-là, on n'est jamais sûr. Je ne le savais pas.
C'était une surprise.
C'était une grande surprise pour moi.
Alors, du cabinet du chef de l'État, on vous retrouve comme administratrice générale, déléguée générale de l'INSS, l'Institut National de Sécurité Sociale.
Exactement.
Qu'est-ce qui fait que vous puissiez quitter le cabinet pour vous retrouver à l'INSS?
Au cabinet, nous avons travaillé pendant le gouvernement de transition 1+4 avec une mission précise. Une fois que le président était élu, les institutions étaient mises en place et le président était investi, notre mandat avait pris fin. Donc, on a travaillé avec le sénateur Chokitundu comme directeur de cabinet, Maître Nkoul comme directeur de cabinet 1, et nous avons terminé notre mandat. Le président nous a remercié. Il a mis une nouvelle équipe en place. Alors, je me suis retrouvée chez moi à la maison.
Vous avez chômé un peu?
Oui, je suis restée 9 mois sans travail. Et quand le copyright a lancé un appel d'offres pour le recrutement des mandataires, j'ai préparé mon dossier, j'ai présenté mon dossier. Mon dossier a été retenu. J'ai passé les tests écrits comme tout le monde et j'ai eu la chance d'être retenue pour l'interview.
Il n'y avait pas des implications politiques?
Non, non. Les tests étaient un test organisé par le copyright pour tous les Congolais et Congolais qui avaient postulé.
On va prendre quelqu'un qui vous connaît bien, qui nous a parlé de vous, honorable Marie-Thérèse Guérimbo. Et puis on se retrouve juste après. Je le laisse s'exprimer.
Je m'appelle Koya Guiano, je suis un Congolais et natif de la province de l'Équateur et particulièrement dans le nord Ubangi. Voilà.
Voilà, monsieur Koya Guiano, quel est le lien qui vous lie, l'honorable Guérimbo?
Eh bien, il y a d'abord le lien de nom que vous venez de dire. Elle s'appelle Guérimbo, moi je m'appelle Guérimbo, c'est-à-dire enfant de Guérimbo, mais c'est pas ça qui compte. Nous ne sommes pas de même famille biologique comme plusieurs Congolais pensent, mais c'est une personnalité que je connais depuis l'université Lovanium. Je suis d'une ou bien de 2 promotions avant elle, et j'ai appris à la connaître à partir de là, et puis ensuite, lorsque nous sommes entrés dans la vie active, j'ai suivi un peu ses pas parce que en 71, elle est partie à Kisangani parce qu'elle devait terminer en psychopédant. Alors, nous sommes retrouvés dans la vie active, chacun faisant son chemin. Et par la suite, j'ai entendu qu'elle était assistante à l'Université pédagogique du Congo, UPN à l'époque. Et puis, par la suite, chef de travaux. Et elle a commencé à évoluer dans les cabinets politiques, notamment la primature, et puis ensuite un des ministères du gouvernement central, et enfin dans le cabinet du chef de l'État comme directrice de cabinet du chef de l'État. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé à la remarquer davantage par sa simplicité, par son affabilité, et pour moi, elle compte parmi les Congolaises que j'appelle souvent grande dame. Quand elle m'appelle, je réponds toujours par bonjour grande dame.
Grande dame pourquoi?
Grande dame pourquoi? Parce que Marie-Thérèse, c'est une femme de vertu, c'est une femme discrète, c'est une femme affable, c'est une femme qui respecte ses aînés, je suis son aîné, je peux le dire. C'est une femme non conflictuelle. C'est une femme intelligente. On peut dire beaucoup de Marie-Thérèse, on n'en aura jamais terminé.
Alors là, je vois qu'il n'y a que des éloges, mais quel est son côté négatif que vous n'appréciez pas?
C'est un peu la timidité. Elle est timide et je sais pourquoi. C'est un peu l'héritage, la culture d'éducation donnée à la femme chez nous. Et cette timidité-là affecte un peu son élan, sa pugnacité, mais sinon ce n'est pas un péché, je dirais, ce n'est pas un péché, c'est une culture propre au Congolaise ou Congolais, propre à la culture de chez nous, qui veut que la femme soit en retrait. Mais lorsqu'on lui donne des responsabilités, elle s'exprime merveilleusement et a la satisfaction de tout. Je vais donner une anecdote. Quand j'étais secrétaire exécutif de la majorité présidentielle et je vois une demande insistante de pensionner de l'INSS qui tenait absolument à me voir et en urgence. Ok, j'ai dit, il y a peut-être périr en demeure. Alors, ces braves messieurs, je les ai reçus. Moi, je croyais qu'ils allaient charger Marie-Thérèse quand elle était l'ADG à l'INSS. Au contraire, ces personnes venaient exprimer leur inquiétude. Quand, comme toujours dans la rumeur, on apprenait qu'on allait la faire partir, tout ça, dit « n'osez pas, s'il vous plaît ». Parce que depuis que Marie-Thérèse est là, nous sommes payés régulièrement. Nous recevons notre pension avec une prime en plus à la fin de chaque année. Elle organise une collation qu'elle donne aux pensionnés. À la fin de chaque année, elle réunit les pensionnés. Elle a créé des dispensaires. Elle fait fonctionner pour le compte des pensionnés. Alors, de grâce, monsieur le secrétaire exécutif, n'osez pas la bouger des mains. Alors, j'ai soupiré et j'ai dit, oh, et voilà. Donc,
s'il y a quelque chose qu'elle devait changer en elle, c'est chasser sa timidité.
Vous savez, chasser le naturel, il vous revient au galop. Il ne faut pas la forcer à faire autre chose que sa nature lui commande.
Alors, c'est la clôture du mois de la femme. Quel message particulier vous voudriez bien adresser à l'honorable Guérimaud?
Oh, d'abord, à titre personnel, parce qu'il y a trop d'affinité à titre personnel, et je continue à l'admirer, je l'encourage. Elle est déjà au niveau le plus élevé au service de l'État parce que l'Assemblée nationale, c'est une des plus grandes institutions de notre pays, qu'elle continue à se donner au service de ses électeurs pour que vive la République.
Une chanson particulière à lui dédier?
Zambé, malamou. Zambé, malamou. Zambé, malamou. Malamou, malamou. Marie-Thérèse, Zambé, Bolingo. Zambé, Bolingo. Zambé, Bolingo. Bolingo, Bolingo.
Merci beaucoup, monsieur Koyagialo, et bon dimanche chez vous.
C'est à moi de vous remercier, madame.
Vous êtes toute émue, Marie-Thérèse Guérimaud.
Oui, c'est une aînée que je respecte beaucoup. Beaucoup. Nous portons le même nom. Et je me souviens quand
moi, je pensais que vous étiez sa petite sœur.
Non. Nous appartenons à la même communauté ethnique. Nous sommes tous des Mbangi. Mais lui, il est du territoire de Mobimbongo. Moi, je suis du territoire de Yakoma.
Uh-huh.
Oui. Nous connaissons depuis l'université.
Il a beaucoup parlé en bien de vous. Vous êtes une femme des vertus, une femme intelligente. Vous êtes simple, vous êtes discrète. C'est ça vous? C'est ça votre personne?
Oui, c'est comme ça que je suis. Timide, je le suis également. Je parle difficilement.
Pourquoi? C'est par rapport à la culture, comme il a dit, comme l'a dit M. Guérimaud.
Bon, vous savez, chez nous, les filles étaient éduquées différemment des garçons. Donc, ils nous étaient pas permis, par exemple, je me souviens dans ma famille, quand ma mère ou mon père parlait, je n'avais pas le droit de les fixer dans les yeux. Et puis, quand la maman vous fait la remarque, vous encaissez, vous ne répondez pas. Et c'était ça l'éducation que j'ai reçue.
Votre timidité ne vous freine pas un peu dans certaines prises de décision?
Bon, je dirais ceci qu'il y a... Vous savez, Dieu fait toujours bien les choses. Ma timidité a été compensée en quelque sorte par mon passage dans l'armée. C'était quand il s'agit de diriger, d'instruire, de donner des commandements, je le fais. Je le fais sans problème. Et même avec les enfants, je puis, puisque mon mari était malade, mais je puis conduire l'éducation de mes 6 enfants sans problème, malgré ma timidité. C'est-à-dire, on s'est fait une idée claire des objectifs à atteindre, et vous y mettez.
Vous êtes passé à l'INSS ou vous avez laissé une image positive de votre gestion? Vous regrettez un peu de votre départ de l'INSS?
Non, je ne regrette pas. Parce que dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours avoir le courage de partir quand il le faut. Au niveau de l'INSS, j'avais des défis à relever. Bon, à partir du moment où j'estime que ces défis ont été relevés, je n'avais plus rien à faire là. Je devais partir.
Vous êtes membre fondateur du PPRD.
Oui.
Il y a combien de femmes parmi les membres fondateurs du PPRD? Vous avez une idée?
Là, je ne saurais pas vous les dire avec exactitude.
Aujourd'hui, vous êtes députée nationale élue de Yacouma, dans le territoire du Nord Oubangui, dans la province de l'Équateur. Alors, parlez-moi un peu de la campagne. Ça s'était bien passé? C'était facile pour vous? On vous a accepté facilement par la population?
La population, je n'en fais pas de problème avec la population. Parce que la population me connaît et la population m'a accepté. Mais j'ai eu plutôt des difficultés avec les autres candidats. Donc, je peux dire les autres adversaires politiques. Et là, c'était très difficile.
Il y avait combien de candidats pour Yacouma?
Bon, Yacouma avait 44 candidats hein, pour deux sièges.
Deux sièges,
oui. Et le combat était âpre.
J'imagine. 40 candidats pour deux sièges. Et vous avez réussi à vous faire élire dans cette circonscription.
Oui, bien sûr.
Comment vous avez fait? C'était quoi votre secret?
Bon, c'était la deuxième fois que je me présente. La première fois que je me suis présentée en 2006, ça n'avait pas marché. Bon, nous avons analysé sans état d'âme la situation. Nous avons cherché à comprendre pourquoi nous avons échoué. Et aussitôt, nous nous sommes mis au travail. Donc, nous avons fait un travail de proximité, village par village. Et nous avons mis sur pied une structure que nous avons appelée les amis de Maman Thérèse. Donc, en plus des militants, de nos camarades du PPRD, nous avions à côté une structure des amis de Maman Thérèse dans chaque village. Et chaque année, chaque mois, nous avons travaillé ensemble en faisant des évaluations régulièrement. De telle manière que quand nous sommes descendus sur terrain pour les élections, même les poules me connaissaient.
Donc vous avez préparé cette campagne-là depuis longtemps, vous avez commencé à préparer ça depuis longtemps?
Depuis longtemps. Donc depuis 2006, aussitôt que j'avais perdu, je me suis mise au travail. Nous avons essayé d'identifier les grands problèmes de l'entité, les attentes de la communauté, et dans la mesure du possible, nous avons essayé de répondre à ces attentes et de nous engager à répondre à ces attentes. C'est ce qui a expliqué notre succès.
Ça ne devrait pas être facile hein, pour vous. C'est un dur travail quand même. Hein.
Ah, mais c'est un travail méticulé. On ne s'improvise pas candidat à la députation nationale. Il faut vous préparer, connaître la culture et surtout connaître la langue. La langue, c'est un facteur important. Parce que quand vous vous adressez aux électeurs, il faut parler leur langue. Parce qu'il y a des moments où je tenais des meetings à Lingala. Et puis, quelqu'un sort là-bas et dit « Oui, c'est bon de nous parler en Lingala, mais il faut nous parler en Bandi. » Et là, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas déléguer quelqu'un. Vous leur parlez en leur langue.
Alors, on va souffler un peu, Marie-Thérèse Kérimbo. Il vous arrive d'écouter de la musique?
Bien sûr.
Quel genre de musique? Les anciens succès de Franco, Canadien.
Surtout les anciens succès de Rochero, Kalejev, Franco, et il y a Touzaïna aussi. Donc c'est un orchestre qui n'existe plus. Et puis Zaïko Langalang. Et parmi les jeunes, j'ai beaucoup aimé Wenge Musica.
Il y a deux Wenge maintenant, il y a
non, des... non.
Quand ils étaient ensemble.
Wenge Musica, vous permettez le mot initial.
Ok.
Ça gênait avec Blaise Boula, Alec Makaba.
Alors, à l'occasion du mois de la femme, on va clôturer le mois avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous propose comme musique qui vous ferait plaisir?
Je ne sais pas si vous pouvez avoir. Gapé Miner, moi, n'a 15 ans. C'est une chanson qui, à l'époque, avait impulsé les femmes. Les jeunes filles pour étudier.
C'est une chanson de qui?
de les frères de Franco. Bavo Marie Marie.
Alors on va demander à la technique si elle a cette chanson de Bavo Marie Marie que vous avez demandé. Gamon a 15 ans. Ok, la technique me signale qu'on a la chanson. Alors on va vous la balancer pour votre plaisir, Marie-Thérèse Guérimbo.
Témoin.
Je rappelle encore une fois à tous les auditeurs de Radio Kati qui nous suivent en ce moment. Le grand témoin vous fait découvrir Marie-Thérèse Guérimbo, ancienne directrice des cabinets adjointes du chef de l'État, ancienne administratrice déléguée générale de l'Institut national de sécurité sociale, l'INSS. Aujourd'hui, elle est députée nationale. Les violences sexuelles, ça reste un fléau en RDC.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Comment mettre fin à ça?
Vous savez, d'abord, c'est un problème compliqué avec plusieurs dimensions. faudra peut-être qu'on prenne le temps d'analyser les différentes dimensions de ces fléaux. Parce que dans notre culture, la femme est la gardienne des traditions. La femme est la gardienne des valeurs culturelles. Et à l'époque, quand il y a de grands problèmes, on fait appel à la femme pour conjurer. Il y a toute une série de traditions où la femme est impliquée directement pour conjurer, par exemple, un mauvais sort qui va s'abattre sur le village. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment contraire à notre tradition. Et je dirais même la première rébellion. On ne touchait pas aux femmes. On ne touchait pas aux femmes. Et les communautés guerrières savent, quand les hommes vont à la guerre, ils ne touchent pas aux femmes. Et quand vous y allez, vous devez vous abstenir de détruire ce qui appartient aux femmes. Quand vous prenez quelque chose dans les champs, vous devez laisser un symbole pour dire, voilà, je me suis servi parce que j'avais faim. La femme a toujours été respectée dans nos communautés. Mais ce que nous vivons, ça nous dépasse.
Est-ce qu'on pourrait mettre fin à ce fléau, à ces violences sexuelles faites aux femmes, si la guerre prenait fin?
Si la guerre prenait fin, il faudra toute une pédagogie de sensibilisation de la communauté, des jeunes gens, des hommes et des femmes, pour essayer un peu de revenir à nos valeurs traditionnelles, qui respectaient la femme. Parce que la femme, c'est la maman. La femme, c'est la gardienne des traditions, des valeurs culturelles. La femme, c'est la base même de la cellule familiale. Quand on détruit la femme, c'est la société qu'on détruit.
Voilà, la femme aussi doit jouer un rôle dans la consolidation de la paix. Comment doit-elle s'y prendre pour jouer ce rôle-là?
Bon, les femmes congolaises ont un grand rôle à jouer. Parce qu'il y a une structure au niveau du pays des Grands Lacs qui regroupe les femmes du pays des Grands Lacs. Je crois que c'est un espace important qui peut permettre aux femmes de s'impliquer et de travailler pour une paix durable.
De faire aussi leurs propositions.
De faire leurs propositions et de parler, de présenter des plaidoyers auprès de tous les chefs de l'État des pays des Grands Lacs. Les femmes ont cette possibilité de travailler pour la paix. Aller auprès de chaque chef de l'État du pays des Grands Lacs pour présenter des plaidoyers. C'est faisable.
Alors, une dernière question sur la femme avant de mettre fin à notre entretien. Le technicien me signale déjà qu'il est temps et que nous devons mettre fin à notre entretien. Qu'est-ce que la femme peut faire pour participer ou occuper des postes de prise de décision?
D'abord, il y a le travail, les études. Les femmes doivent, il y a le travail, les études, le travail et puis la formation permanente, les lectures. C'est à travers les lectures. Quand il y a des séminaires organisés pour les femmes, en tout cas, la femme qui veut aller de l'avant doit participer à ces séminaires, puisqu'on apprend beaucoup pendant ces séminaires. Et là, vous avez l'occasion d'échanger, de rencontrer vos collègues femmes, et puis d'échanger avec eux, avec elles, et d'aller de l'avant.
Et ces séminaires sont organisés pour une certaine catégorie de femmes. On dit que les femmes de l'arrière-pays sont souvent oubliées.
Puisque le ministère, la condition féminine est représentée dans toutes les entités. Quand vous arrivez au district, il y a une division de la condition féminine. Dans les territoires et même dans les secteurs, il y en a. Le problème est de donner à toutes ces structures-là, au niveau des entités décentralisées, le moyen pour qu'ils organisent des séminaires, des formations au bénéfice de la femme.
Voilà, Marie-Thérèse Kiringo, Iyazola.
Iyazola, vous êtes en train de sacrer mon nom.
Excusez-moi, c'est pas fait exprès, hein,
Iyazola.
Marie-Thérèse Kiringo, Iyazola, voilà, c'est bien prononcé.
Oui, non, ça va.
Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Un message particulier à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment en RDC et partout dans le monde.
Donc, le dernier message, c'est de demander aux femmes de ne pas se décourager. Le fait d'être femme, ce n'est pas un handicap. Au contraire, c'est une qualité. Il y a beaucoup de choses que la femme comprend facilement grâce à son intelligence intuitive et grâce à sa sensibilité. Une femme, quand il analyse un problème, il l'analyse dans sa globalité et pour une réponse globale. Et c'est un atout majeur que les femmes devraient exploiter et mettre cet atout-là au service de la société.
Honorable Marie-Thérèse Kiringo, je vous remercie. Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Marie-Thérèse Kiringo Iyazola, ancienne directrice du cabinet adjointe du chef de l'État, ancienne administratrice déléguée générale de l'INSS, aujourd'hui elle est députée nationale. Merci à Paul Badianyama et Willem Lungamba qui étaient à la technique, au micro, qui l'écoutaient. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche à tous et bonne fête des Pâques à tous les chrétiens qui fêtent la résurrection de Jésus aujourd'hui.